Nous avons dit aux catholiques français acceptez la République, c'est-à-dire le pouvoir constitué et existant parmi vous, respectez-la. Soyez-lui soumis comme représentant le pouvoir venu de Dieu. Extrait de la lettre du pape Léon XIII aux cardinaux français, le 3 mai 1892.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
La dernière émission consacrée à Léon XIII portera sur l'encyclique « Au milieu des sollicitudes » du 16 février 1892. C'est une encyclique, évidemment, qui compte énormément dans l'évolution politique du catholicisme français, puisque cette encyclique a pour thématique la question du ralliement, c'est-à-dire le fait que les catholiques français pouvaient, tout en restant bien sûr catholiques, se rallier au régime républicain qui s'était installé une vingtaine d'années auparavant. Ce fut un vrai débat, et il faut revenir, sans doute à l'époque révolutionnaire et concordataire, pour comprendre les enjeux, parfois les difficultés ou les espoirs du monde catholique français. La Révolution avait été indéniablement un choc pour le catholicisme français. Non pas qu'en 1789, les catholiques ou l'Église elle-même étaient hostiles à toute idée des réformes qui étaient préconisées, mais les évolutions de la période révolutionnaire avaient fracturé le catholicisme. Ce fut le cas en particulier à propos de la constitution civile du clergé. Et puis il y a eu des phénomènes de persécution des prêtres réfractaires, les prêtres qui étaient déportés en Guyane, des exécutions, des massacres, comme les massacres de septembre de 1792. Donc, vous l'avez compris, la Révolution avait laissé des cicatrices. Bonaparte, avec le Concordat de 1801, avait calmé les choses. Il avait rendu une paix religieuse, et en particulier entre l'Église catholique, le Saint-Siège et la République française, dont il était le premier consul. Ce concordat permettait à l'État de nommer les évêques, qui étaient des fonctionnaires de l'État, comme d'ailleurs les prêtres, qui recevaient mensuellement un salaire de l'État français. Ce système concordataire a fonctionné tout au long du XIXe siècle et jusqu'à la loi de séparation de 1905. Il n'en reste pas moins vrai que la question du positionnement des catholiques vis-à-vis des régimes qui se sont succédés au XIXe siècle est une question majeure. Vous le savez, le XIXe siècle a été un siècle que je qualifierais d'expérience politique pour la France. En 1814-1815, à la fin de l'époque napoléonienne, la France retrouve la dynastie des Bourbons au travers de la Restauration. Les erreurs de Charles X et du gouvernement Polignac aboutissent en 1830 à la Révolution qui donne naissance à la monarchie de Juillet, Louis-Philippe. 1848, nouvelle révolution, seconde république, qui prend fin elle-même le 2 décembre 1851 avec le coup d'État du prince Louis-Napoléon Bonaparte et la proclamation l'année suivante du Second Empire, qui va s'effondrer en 1870 pour des raisons extérieures, à savoir la défaite militaire contre la Prusse. Donc, vous l'avez compris, ces expériences ont obligé les catholiques à se positionner sur le plan politique. Globalement, on peut dire que l'opinion des catholiques était plutôt favorable à un système monarchique. À vrai dire, il y avait eu sans doute un catholicisme légitimiste, mais à l'époque du Second Empire, les masses catholiques sont plutôt favorables au régime impérial. Reste qu'après 1870, la Troisième République va s'instaurer. Je n'ai pas évidemment le temps de revenir sur les circonstances de son installation, mais après les élections de 1876, il y a une majorité républicaine à la Chambre. Les élections de 1877 suite à la dissolution confirment, malgré un petit recul, la majorité républicaine. Et enfin, les élections de 1881, 1885-1891 ont clairement montré qu'il y avait dans le pays une majorité républicaine. Et d'ailleurs, les dernières élections du début de la décennie 1890 donnaient plutôt une majorité à des républicains modérés. Or, à Rome, on a suivi cette affaire avec intérêt. Parce que ce que ne voulait pas Léon XIII, c'est que finalement, il y ait, de la part des catholiques français, un repli intérieur, ce qu'on pourrait qualifier d'un exil intérieur. Et il voulait donc, par une encyclique, eh bien, leur préconiser de se rallier à ce régime qui, spontanément, n'était peut-être pas le leur. D'où la publication, le 16 février 1892, d'un texte en français et non pas en latin. C'est important parce que quand le Saint-Siège publie une encyclique dans une langue vernaculaire avant de la publier en latin, c'est qu'elle a un but particulier. Et publier cette encyclique en français, c'était bien sûr une manière de mettre véritablement l'éclairage sur la situation politique de la France. Je vous propose de lire un extrait de cette encyclique. Divers gouvernements politiques se sont succédés en France dans le cours de ce siècle, et chacun avec sa forme distinctive, empire, monarchie, république. En se renfermant dans les abstractions, on arriverait à définir quelle est la meilleure de ces formes, considérée en elle-même. On peut affirmer également, en toute vérité, que chacune d'elles est bonne, pourvu qu'elle sache marcher droit à sa fin, c'est-à-dire le bien commun, pour lequel l'autorité sociale est constituée. Il convient d'ajouter, finalement, qu'à un point de vue relatif, telle ou telle forme de gouvernement peut être préférable, comme s'adaptant mieux au caractère et aux mœurs de telle ou telle nation. Donc, nous le voyons, le pape demande aux catholiques non pas de s'attacher à un type de régime particulier, mais de voir si un régime peut viser au bien commun. Or, ce texte va bousculer les habitudes, car comme nous allons l'entendre dans cette Marseillaise des Blancs, tout au long du XIXe siècle, la Révolution et la République avaient eu plutôt tendance à être rejetées par une grande partie des catholiques. Vous comprenez que, effectivement, au regard de la tradition politique catholique de la France du XIXe siècle, le texte de 1892, le texte du magistère, pouvait bousculer. Et d'ailleurs, le pape en était tout à fait conscient. Il avait, si j'ose dire, au travers du cardinal Lavigerie, archevêque d'Alger, testé un peu les réactions quand il y avait eu, en 1890, ce qu'on appelle le toast d'Alger, où le cardinal archevêque avait porté un toast à la République devant un parterre d'officiers de la marine française qu'on appelait la royale, et vous comprenez bien pourquoi, parce que la plupart de ces officiers étaient plutôt attachés à la monarchie. Or, dans le texte de l'encyclique, eh bien, Léon XIII va essayer tout de même de les rassurer. Je cite à nouveau le pape. Dans cet ordre d'idées spéculatifs, les catholiques, comme tout citoyen, ont pleine liberté de préférer une forme de gouvernement à l'autre, précisément en vertu de ce qu'aucune des formes sociales ne s'oppose par elle-même aux données de la saine raison, ni aux maximes de la doctrine chrétienne. Et ça n'est assez pour justifier pleinement la sagesse de l'Église alors que dans ses relations avec les pouvoirs politiques, elle fait abstraction des formes qui les différencient, pour traiter avec eux les grands intérêts religieux des peuples, sachant qu'elle a le devoir d'en prendre la tutelle au-dessus de tout autre intérêt. Nos précédentes encycliques ont exposé déjà ces principes. Il était toutefois nécessaire de les rappeler pour les développements du sujet qui nous occupe aujourd'hui. En fait, le pape est tout à fait conscient qu'une bonne partie des catholiques, encore dans ces années 1890, bien sûr, étaient attachés à l'idée d'une restauration. De ce point de vue, la famille, par exemple, d'Henri de Gaulle, le père de Charles de Gaulle, était significatif. Il s'était battu en 1870, car très patriote, il était catholique, très fidèle à l'Église, mais en même temps, il fut, pour reprendre l'expression de son petit-fils Philippe, un monarchiste de regret, qui regrettait sans doute la tradition monarchique qui avait fait en grande partie la France. Mais ses fils, et c'était ce que regrettait parfois Madame de Gaulle mère, étaient devenus progressivement républicains parce que, eh bien finalement, la réalité politique du pays faisait que la République était désormais un régime clairement installé dans la nation française. Et donc, le raisonnement de Léon XIII, c'est d'éviter justement que cette réalité empêche les catholiques de s'engager dans la res publica, dans la République, c'est-à-dire dans les affaires communes. Il fallait éviter de laisser le terrain totalement libre aux adversaires eux-mêmes de l'Église et du catholicisme. Certains catholiques refusèrent ce ralliement. Ils y mirent les formes, mais ils expliquèrent au pape, et c'est le cas par exemple de ce que va être l'Action française, qu'on ne pouvait pas se rallier à la République. D'autres, qui avaient été des monarchistes de cœur, comme Albert de Mun ou Jacques Pioux, eh bien, se conformèrent aux vœux du Saint-Siège et créèrent l'Action libérale populaire qui jetait finalement les bases de ce qu'on appellera plus tard la démocratie chrétienne. Ils se présentèrent aux élections, ils furent d'ailleurs assez régulièrement élus, ils défendaient la cause de l'Église, les principes du christianisme, mais ils acceptaient le régime et ils le faisaient fonctionner au travers de leur place au Parlement. C'est donc un moment clé parce que nous assistons au début de l'intégration lente mais progressive du catholicisme au sein de la République. Bien sûr, il y a eu encore des tensions, 1904-1905, avec la rupture entre Rome et le gouvernement français, avec la loi de séparation, mais à partir de l'entre-deux-guerres, des élections de 1919, il y a un groupe démocrate chrétien qui va se former, le Parti démocrate populaire. Et il faudra attendre 1944-1945 pour voir officiellement deux catholiques jouer un rôle extrêmement important à la tête de l'État, Charles de Gaulle lui-même et Georges Bidault, qui fut nommé ministre des Affaires étrangères en septembre 1944. Il est presque d'ailleurs significatif que, où alla Charles de Gaulle après la libération de Paris, eh bien il alla chanter un magnificat à la cathédrale Notre-Dame.